C'est un plaisir très, très particulier que d'accueillir aujourd'hui, je veux dire, c'est un plaisir à toutes sortes de plans, humains, intellectuels, et puis aussi d'accueillir dans cette maison Jean-Baptiste Brenet pour cette sixième conférence de notre groupe de recherche théorique, dans le cadre d'une année qui marche maintenant vers son terme, puisque les prochaines conférences seront celles de Michel Deguy et celles de Judith Butler, qui viendront clore ce cycle qui s'est appelé de façon délibérément un peu ouverte, sinon énigmatique, expérience théorique. Alors l'expérience de ce soir sera menée par Jean-Baptiste, dont plus d'un savent que c'est un des esprits aigus de génération de philosophie d'aujourd'hui, et qui est spécialiste de philosophie médiévale, et aujourd'hui maître de conférence à l'université de Paris-10-Nanterre. Donc sans plus attendre, s'il le veut bien, je le remercie d'être là, et je lui passe la parole.
Bonsoir à tous. Alors merci vraiment très sincèrement à Denis et à travers lui à toute l'équipe du groupe de recherche. Et puis merci à vous d'être présents, et je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si nombreux. Je voudrais dire quelque chose ce soir sur ce qu'on appelle, mais l'expression n'est pas très claire, et peut-être c'est tant mieux, l'intelligence collective. Et pour en parler, il y a bien des entrées, par exemple la technologie la plus contemporaine, Wikipédia sur le net, le co-rationalisme scientifique, la démocratie participative, tout ce que vous voulez. J'en choisis une d'allure très inactuelle, une entrée médiévale, basée sur quelques textes, sur quelques thèses du philosophe Averroès, qui est un homme du XIIe siècle. Il meurt à la fin du XIIe, en 1198. Alors Averroès, c'est l'homme que vous voyez au pied de Thomas d'Aquin sur ce tableau. Il est tout en bas, il est à terre, il est barbu, en turban, manifestement défait, il est battu, mais irrité. Irrité encore, et pour parler comme Renan, il est là, je cite Renan, « maugréant comme le rebelle qu'il est, brouillé avec les hommes et Dieu ». Alors je reviendrai tout à l'heure sur ce tableau du XIVe siècle, c'est-à-dire pas si loin finalement de l'étude qui va proprement, de la période qui va proprement occuper. C'est un tableau célèbre qui est l'œuvre, comme c'est marqué, de Francesco Trani. On le voit à Pise, dans l'église Sainte-Catherine. Je note simplement pour l'instant qu'il y a un livre à côté d'Averroès, un livre retourné face au sol, un livre proprement donc illisible. Il est possible que ce soit le Coran, ce livre. Et de fait, sur le livre ouvert que Thomas d'Aquin tient sur les genoux, il est écrit en latin « Veritatem medita vitur guttur meum et labia mea detestabuntur infium », c'est-à-dire en français « Ma gorge méditera la vérité et mes lèvres maudiront l'impie ». Et c'est tiré des proverbes de la Bible. Possible donc qu'il s'agisse du Coran, et que ce soit comme musulman qu'Averroès soit dominé ici et contraint au silence. Mais ce pourrait être, en tout cas je voudrais l'imaginer, un autre livre, un livre de philosophe, un commentaire d'Aristote, et plus exactement le grand commentaire qu'Averroès a donné du traité de l'âme d'Aristote. Alors, je vais justifier cela d'une manière très sommaire, extrêmement sommaire, mais qui me servira à présenter les quelques éléments dont j'ai besoin. Il me faut dérouler un fil, ça n'est pas un détour, mais je dois parcourir un certain chemin pour arriver à cet art, à ce que je voudrais dire. Je l'ai dit, Averroès est un homme du XIIe siècle, il est andalou, il est arabophone, il est musulman. Sa fonction officielle, c'est d'être grand cadi, c'est-à-dire juge. Et à ce titre, c'est un dignitaire du pouvoir. Mais il est aussi, peut-être surtout, pourrions dire nous, commentateur d'Aristote, et c'est à cet égard qu'il a joué un rôle absolument crucial dans l'acculturation philosophique et intellectuelle de l'Occident latin, qui, passé les premiers effets de l'œuvre d'Avicenne, des effets importants et durables même, reçoit à partir du XIIIe siècle, ici à Paris, vers 1225 environ, l'ensemble du corpus d'Aristote doublé des commentaires détaillés, minutieux d'Averroès. Alors cela lui confère, à mes yeux, aujourd'hui, une place de taille, pour le dire très très vite, tous les médiévaux ont lu Aristote, enfin les médiévaux du XIIIe en tout cas, et tous, pour ce faire, ou ce faisant, ont lu Averroès, dont ils extraient les éclaircissements qui manquaient et dont ils héritent de manière plus ou moins directe, plus ou moins avouée, plus ou moins consciente, des concepts, des axiomes, des principes, voire des pans entiers d'exégèse. Cela étant, sur la question précise de l'intellect, de la théorie aristotélicienne de l'intellect, qui en elle-même est délicate, assez peu accordée au reste de sa psychologie, sur cette question, la lecture d'Averroès va faire assez rapidement scandale, et on va s'y achoper. On lui reproche principalement trois thèses liées les unes aux autres, et c'est ce que je veux retenir, ce dont j'ai besoin. Premièrement, de soutenir que l'intellect de l'homme, est séparé ontologiquement, c'est-à-dire séparé par son être des corps individuels, c'est-à-dire l'idée que l'intellect ne serait pas la forme substantielle du corps, que l'intellect ne serait pas la forme conférant son être au corps, mais une sorte de moteur extrinsèque qui ne serait lié que de manière opérative aux individus, et cela ponctuellement. Deuxièmement, on lui reproche d'affirmer que cet intellect séparé est un, unique, c'est-à-dire qu'il y a un seul intellect pour toute l'espèce humaine. C'est sans doute la thèse la plus célèbre d'Averroès, celle qui lui a valu longtemps, pendant plusieurs siècles, sa réputation de penseur maudit. Il n'y a qu'un seul intellect in omnibus, c'est-à-dire en tous, pour tous. Troisièmement, cet intellect séparé, unique, est aussi éternel, c'est-à-dire qu'il ne vit pas de la vie du corps, il ne dure pas ce que dure le composé, il préexiste à l'individu et lui survit. Triple thèse, donc, que je dois tout de même préciser un tout petit peu. Je dois la préciser parce qu'on distingue chez Aristote, si vous ouvrez le De Anima, et notamment le livre 3, deux sortes d'intellect. Un intellect, je cite, capable de tout produire, c'est l'intellect qu'on appellera très rapidement après lui agent ou poétique. C'est l'intellect qui produit la pensée, qui la fait. Qu'il fasse la pensée, ça veut dire qu'il abstrait l'universel des images individuelles. Et un deuxième intellect, je cite encore, capable, lui, de tout devenir. Et c'est l'intellect qu'on appellera cette fois l'intellect matériel, ou possible, ou encore, en se calquant sur le grec, l'intellect illique. Et que cet intellect soit appelé matériel ne signifie nullement qu'il est matériel, au contraire, s'il l'était, s'il avait une assise organique, eh bien la pure saisie de l'universel serait impossible, cela parasiterait la pensée, donc il n'est pas du tout matériel, mais comme la matière, il est en mesure de recevoir, et en l'occurrence de recevoir des concepts, c'est-à-dire des formes universelles. Cet intellect matériel, c'est, autrement dit, le récepteur des pensées, son récipient, son assiette, son lieu, ou, pour user d'un terme plus technique, mais d'usage très courant à l'époque, et qui nous parle bien, c'est son sujet, son subjectum, son substrat. Alors pourquoi avoir précisé cela? Parce que pour Averroès, les deux intellects sont séparés, les deux sont éternels, les deux sont uniques, mais c'est le fait, pour les latins, c'est le fait que l'intellect matériel le soit, qui les a scandalisés. Pour le dire en une phrase, le scandale, c'est que le sujet des pensées, le sujet substrat des pensées, plus que tout, soit séparé, c'est-à-dire séparé des corps, et non pas en quelque façon solidaire d'eux par son être, qu'il soit unique et non pas individué, originairement individué, et qu'il soit éternel, c'est-à-dire inengendrable et incorruptible, et non pas donc contemporain de la vie de l'individu. Bien. Généralement, lorsqu'on aborde la crise latine engendrée par cette triple thèse noétique, c'est-à-dire relative à l'intellect, c'est, en se fixant sur les traits les plus saillants des textes qui l'attaquent, qui ripostent, c'est pour repérer ou pour examiner tout ce qui paraît contrevenir chez Averroès à ce qu'on pourrait appeler la personnalité de la pensée. Je crois sans anachronisme là. Voilà donc ce qui est le plus célèbre, qui fut inlassablement répété et qui, historiographiquement, est le plus travaillé. Chez Averroès, dit-on, il n'y a pas de pensée personnelle possible. Or, c'était inacceptable dans un monde chrétien qui, fondamentalement, suspendait à cette personnalité la morale, la politique, tout comme, dans l'avenir, la rétribution et le châtiment. C'était inacceptable. Donc, ce fut condamné, ce fut attaqué et condamné, et il reviendrait aux historiens, que nous sommes en partie, d'étudier comment ce fut fait, c'est-à-dire d'étudier comment, pour citer Renan à nouveau, comment on a philosophiquement établi, je le cite, l'évidence d'une raison qui dit « je ». Au vrai, le reproche majeur qu'au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, qui est sur l'image, Thomas d'Aquin, sans conteste le plus grand, le plus puissant adversaire d'Averroès et l'un de ses plus grands lecteurs, le reproche majeur qu'il lui adresse est celui-ci, et c'est très fameux. Le système d'Averroès ne vaut pas, dit Thomas, pour cette raison simple que réclame contre lui l'évidence d'un fait dont il ne peut, dans le cadre de son système, rendre raison, à savoir que cet homme pense, en latin, hic homo intellit. Ce qui, chez Thomas, veut dire au moins trois choses. Cet homme pense, c'est-à-dire c'est l'homme qui pense et non pas un intellect séparé, première chose. Deuxièmement, ça veut dire qu'il pense sa pensée, c'est-à-dire qu'il en est l'acteur et le récepteur, qu'il en est le suppôt, nonobstant la nécessaire universalité des concepts. Et troisièmement, cela veut dire que de cette implication, l'individu fait l'expérience, qu'il fait l'épreuve. Autrement dit, chacun sait bien, chacun ici voit bien qu'il pense, que c'est lui-même qui pense quand il pense. Or, dit Thomas, c'est bien ce qu'Averroès ne peut établir, c'est un phénomène qu'il ne peut sauver, parce que si l'on accorde l'idée qu'il n'y a qu'un intellect, que cet intellect est séparé, qu'il est éternel, il est clair, dit Lacinat, il est clair que la proposition hic homo intelligit ne sera pas vérifiée. Alors je n'entre pas du tout dans les détails et la légitimité de cette attaque, ce n'est pas ça ce soir qui m'intéresse, mais l'essentiel tout de même peut être formulé en très bref. Si c'est le même intellect que l'espèce humaine se partage, nous-mêmes ici nous pourrions dire cette chose-là, il paraît impossible que, conformément à l'expérience que nous faisons actuellement, différentes pensées distinguent différents hommes. Pour le dire très simplement, de l'un ne sortira jamais, dit Thomas, le multiple. Et un seul intellect, ce serait quoi? Ce serait une seule pensée pour tous, au même moment. Une seule pensée que nous ne ferions qu'assumer. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de cogito, mais si on jouait sur le latin, un cogitato, quelque chose comme « ça pense » ou « on pense ». Ce serait donc une pensée unique, je vous cite une phrase très brève de Thomas d'Aquin qui dit « Il n'y aurait qu'un seul pensant et par conséquent qu'un seul voulant. » Et si cet intellect est séparé et s'il est éternel, c'est pire. S'il est séparé, comment une pensée qui se ferait hors de moi, une pensée du dehors, une pensée décentrée pourrait-elle être mienne? Première question. Je vous cite Albert Legrand, le maître de Thomas, qui écrit ceci de très percutant. Cette erreur est totalement absurde. Ce qui s'ensuit immédiatement, en effet, c'est que, en latin, intellecta omnia, toutes les pensées, semper sint extra nos, toujours sont en dehors de nous. Enfin, s'il est éternel, disais-je, c'est pire. Y aura-t-il seulement, en effet, un acte de pensée, du neuf, si une infinité d'hommes, avant moi, a nécessairement épuisé tout le pensable, si toute pensée est toujours déjà faite? En somme, si l'on vient toujours déjà, trop tard. Rien, semble-t-il, ne se concevrait plus et tous les individus, voilà ce que dit Thomas, s'absorberaient dans le tout et perdraient conscience et liberté. Voilà le risque, le blasphème, l'inconséquence que les latins, Thomas d'Aquin en tête, débusquent et dénoncent dans la doctrine apparemment exorbitante d'Averroès sur l'intellect. Alors, je le disais, c'est sous cet angle que, généralement, on considère la polémique anti-averroïste. Averroès, c'est la non-pensée d'individu. Averroès, deux points, l'homme ne pense pas. Et, bien sûr, voir les choses ainsi, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, loin de là. Pour deux petites raisons que je voudrais signaler. D'abord, parce qu'on assiste effectivement, sur ce point précis, à une production théorique de très grande ampleur, ne serait-ce que par le volume et la diversité des textes qui interviennent. Ce qui d'ailleurs intéresse directement le projet de notre groupe de recherche, puisqu'on pourrait poser cette question, que font tous ces latins inlassablement, de texte en texte, et dans des textes de facture différentes, dans des sermons, dans des questions disputées, dans des cours, dans des pamphlets, que font-ils lorsqu'ils pensent contre Averroès? Je vais en dire un mot. Ensuite, ça n'est pas rien parce que du strict point de vue conceptuel, le gain ou l'invention fut énorme. Quelques exemples. Contre la séparation de l'intellect, contre l'idée d'une pensée du dehors, extrinsèque, il a fallu penser son intrinsécéité. Il a fallu justifier que la subjectivité de la pensée, si l'on veut son intériorité, quoique ce ne soit pas exactement la même chose, soit un réquisite de la pensée humaine comme pensée propre, comme pensée personnelle. Ça n'allait pas du tout de soi. Contre l'unicité de l'intellect, il a fallu, encore une fois, sans rien nier de l'universalité des concepts et de la communauté donc que suppose tout acte d'intelligence, il a fallu penser la possibilité de l'individuation de l'intellection, sa multiplicité, la possibilité d'une singularité malgré tout dans la pensée, et donc dans la volonté, et donc dans la morale, et donc dans la loi. Autrement dit, il a fallu penser les conditions d'attribution, les conditions d'imputation d'un acte pourtant tout ordonné à l'universel. Enfin, contre l'éternité de l'intellect, il a fallu penser, là encore, restituer ou donner à la pensée sa dimension événementielle. Il a fallu penser l'adventicité de la pensée, c'est-à-dire son caractère proprement contingent dans un monde où on voulait qu'apprendre, qu'enseigner, que transmettre fût encore possible. Énorme production conceptuelle, donc, énorme effort de théorisation, on pourrait dire en contre, qui tient au fait, me semble-t-il, que les arguments de réplique, en dépit de l'évidence latine qu'il y avait là quelque chose d'inassimilable, quelque chose d'inacceptable, ces arguments n'étaient pas déjà intégralement disponibles, absolument prêts, et qu'il fallait par conséquent étayer ce qu'on opposait immédiatement comme riposte, comme refus, faisant apparaître ipso facto ce qui était le sol de ce qui était un désaccord de fond. Il a fallu formuler ceci notamment, que Thomas d'Aquin affirme contre le commentateur, à savoir que si l'on suit la position des Averroïstes, subtraitur quod est in nobis, c'est-à-dire nous est retiré quod est in nobis, ce qui est en nous ou ce qui est en notre pouvoir, comme l'a récemment rappelé Emmanuel Koch, avec raison. Nous retirant ce qui est en notre pouvoir, nous détruirions ce que Thomas appelle la conversatio civilis, c'est-à-dire ce qu'on traduit par la société politique. Alors, je dirais que apparaît dans les textes anti-avéroïstes des latins une pensée au sens fort de leur latinité. Et c'est ce qui fait l'une des singularités de cet ensemble de créations théoriques dont je parle, c'est qu'il ne se déploie pas, si je puis dire, dans l'espace ouvert depuis des siècles par cette latinité, en ne faisant que confirmer son sens, en ne faisant qu'y ajouter, mais que d'une certaine manière, et ça n'est pas le cas de toutes les productions théoriques, il en explicite sur plusieurs points précis l'imputation, je l'ai dit, la nature de l'acte intellectif, ce que Deleuze appelle l'image de la pensée, c'est-à-dire l'implicite qu'on entend sur un mode pré-philosophique dont tout le reste dépend. Tout cela, par conséquent, est fondamental, et c'est ce qui est le mieux connu des historiens, philosophes ou des médiévistes. Cela étant, on peut changer, non pas totalement de terrain, mais de point de vue. Et considérer la théorie d'Averroès sur l'intellect dans ce choc scolastique, non pas, ainsi que nous y enjoignent d'abord les textes adversaires, comme une théorie où il n'y a pas de doctrine de la pensée personnelle, comme une théorie qui pêche par son impuissance à valider la proposition hic homo intelligit, et en ce cas on pointe un manque, on pointe un échec, et d'ailleurs c'est faux qu'il n'y a pas une doctrine de la pensée personnelle, mais peu importe ici, mais plutôt comme une théorie gênante, une théorie bouleversante, inadmissible par la doctrine de la collectivité, entre guillemets, qu'elle propose, ou qu'elle enveloppe. C'est-à-dire aussi, fût-ce au prix de quelques glissements, par la doctrine de la collectivité qu'elle pouvait et peut encore autoriser. C'est donc moins évident, moins formulé, mais je propose ceci. Plutôt que de dire « la théorie d'Averroès sur l'intellect scandalise par la doctrine de la pensée personnelle qu'elle n'expose pas ou qu'elle ne sauve pas », disons, elle est explosive et rejetée, mais lisible encore, par la doctrine de l'intelligence collective, entre guillemets, que, positivement, elle offre, qu'elle a pu suggérer ou qu'elle continue d'offrir. Et que recouvre la trop grande attention, légitime, mais sans doute trop exclusive, portée au vaste mouvement d'invention, de préparation de la subjectivité moderne. Qu'y a-t-il donc là, dans ce collectivisme averroïste, qu'on peut tâcher, avec un peu de profit, de dégager ? Alors, je ne veux pas m'attarder, nouvelle mise à l'écart, sur ce qui pourrait constituer une théorie de l'intelligence collective chez Averroès lui-même, si l'on connaît toutes ses œuvres. Je vais plutôt m'intéresser aux éléments de sa théorie de l'intellect dont pouvaient disposer les latins et dont certains de fait furent transférés et relancés. Tout de même, là encore, un mot. Chez Averroès, il ne serait pas insensé de prétendre repérer une théorie de l'intelligence collective. Quelle théorie ? Eh bien, très paradoxalement, elle n'est peut-être pas si éloignée, en tout cas sur quelques points, de ce qu'on voit sur le tableau de Klein, et qui vaut pour Thomas d'Aquin. Regardez, si vous le voulez bien, cette œuvre à nouveau, qui est à sa manière un bel exemple d'intelligence collective, même si c'est à la gloire d'un homme. Thomas d'Aquin est au centre, assez nettement détaché, mais ce qui est important dans ce tableau, outre la figure d'Averroès dont on a déjà parlé, et le sens de sa défaite, c'est la structure du tableau. C'est-à-dire à la fois l'identité et la distribution des personnages, et le système de rayons, qui sont assez nets tout de même sur la reproduction, le système de rayons qui les articule. Il s'agit bien d'une toile, si vous me passez le mauvais jeu de mots, en ce sens qu'un ensemble de fils, des fils d'or, en ce sens qu'un maillage articule et oriente ce tableau. Alors, qui sont ces personnages ? Tout en haut, c'est Jésus, c'est-à-dire la lumière du monde. Tout part de lui. Il ne faudra jamais oublier que tout part d'un premier épanchement, d'une première infusion en surplomb à la verticale de nos têtes, et en l'occurrence de celle de Thomas d'Aquin, qui donc n'est au centre que parce qu'il est lui-même centré sur Dieu. En dessous de Jésus, six personnages, Moïse et saint Paul d'abord, puis les quatre évangélistes. Alors ce qu'on doit noter, c'est que leurs irradiations, les irradiations qui partent d'eux, atteignent le visage et l'œuvre de Thomas d'Aquin, comme celle des deux individus placés de part et d'autre de Thomas. Aristote, à votre gauche, qui tient dans sa main son éthique, et Platon, à droite, qui lui a en main le timée. Là encore, on voit qu'un filet doré s'échappe des ouvrages qui vient faire resplendir la face du saint. Ainsi, la philosophie, c'est-à-dire le savoir païen, vient-il s'ajouter au flot de la lumière divine représentée par les personnages dans les nus ? Pour donner quoi ? Bien pour donner ce que Thomas tient sur les genoux, c'est-à-dire des livres puissants, ouverts, efficaces, des livres qui, d'une part, récapitulent, résument, synthétisent tous les savoirs, ils en sont le point de réunion, et qui, d'autre part, relancent, réfléchissent comme une surface polie, mais cette fois vers le bas, la vérité que l'auteur a su recevoir. De quel livre s'agit-il ? Probablement des sommes, des deux sommes de Thomas d'Aquin, la somme contre les gentils et la somme de théologie, puisque la citation biblique que je vous ai donnée ouvre la somme contre les gentils. Ces ouvrages, je l'ai dit, servent de point de départ à une autre série de rayonnements. Ceux qui en bénéficient, ce sont les groupes répartis tout en bas, de part et d'autre d'Averroès, qui sont les divers disciples de Thomas et qui héritent sa science. Donc, intelligence collective, oui, et cela en deux sens. Par son origine, Thomas est le point de confluence des savoirs et des sagesses. Et par son point d'application, il est le foyer d'irradiation qui galvanise ceux qui l'écoutent et qui viennent après lui. Donc certes, le savoir est incarné en Thomas, le saint. Mais d'une part, cette intelligence est d'abord collectée. Il faudrait ajouter le monde, si on est un aristotélicien, collectée du monde d'en bas, du monde d'en haut. Et elle est unifiée, et d'autre part, elle vaut pour tous ceux qui ne sont qu'hommes, je vous ferai remarquer, y compris pour Averroès, dont un filet vient transpercer le livre. Alors, mutatis mutandis, et il y a beaucoup à mutarer, il y a quelque chose de cet ordre chez Averroès lui-même lorsqu'il parle du philosophe. Le philosophe chez Averroès, c'est l'omniscient, c'est l'homme qui sait tout, c'est-à-dire qui a tout abstrait, ce qui était abstrayable dans le monde, qui a épuisé l'intelligible du monde, et qui, ce faisant, bascule dans un autre mode d'intellection qui lui ouvre un accès immédiat à l'intelligible pur et qui l'assimile en quelque façon à Dieu. Donc le philosophe, c'est cela, et non pas l'apprenti que, dont parlent les Grecs. C'est cela pour Averroès. Mais Averroès n'ignore pas la difficulté de ce chemin qui conduit à faire d'un homme le dépositaire livré. Il n'ignore pas, il n'ignore rien de l'ascèse très sévère, ni du long apprentissage que requiert cette jonction terminale. C'est pourquoi, dit-il, l'entraide est nécessaire. Et cette entraide est nécessaire au moins à deux niveaux, et d'abord au niveau scientifique. Car il faut s'approprier, dit Averroès, toutes les sciences transmises par la tradition, et qui sont, toutes les sciences qui sont véhiculées de toute éternité par les prédécesseurs, les contemporains du philosophe, pour leur part, en détenant chacune une partie. On pourrait presque dire du philosophe dont parle Averroès qu'il est comme Dante au début de l'enfer lorsque Dante aperçoit Virgile et qu'il lui dit « Es-tu, Virgile, cette fontaine qui répand du parler un si large fleuve ?» Qui répand du parler un si large fleuve. Parce que, il y a plusieurs lectures possibles de ces vers, évidemment, mais c'est quoi ce large fleuve? Ça n'est pas l'Énéide. Ce large fleuve, c'est le lieu, le présent du poète, c'est le site de sa création. Et c'est quoi ce site? C'est un fleuve. Il n'est pas sur la rive pour le voir couler de l'extérieur. Il ne remonte pas à en origine pour le voir face à face. Il est dans le flux. Et c'est du flux toujours qu'il parle. De même, le philosophe dont parle Averroès vient toujours après, à la suite d'eux. Et c'est pour cette raison qu'il prend appui, qu'il doit nécessairement prendre appui sur les autres par l'apprentissage, la transmission, l'enseignement, et non pas espérer une sorte de donation gratuite, cette donation gratuite dont parlent les soufis, qui voudraient que l'illumination soit le fruit direct d'une grâce divine. Pensez encore à ce tableau, finalement, pour Averroès aussi reçoit les filets d'or de Platon et d'Aristote. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas qu'une entraide scientifique, et cela ne se trouve pas dans le tableau de Thomas d'Aquin, et sans doute on ne pourrait l'y trouver. Parce que pour Averroès, le concours, la coopération, la synergie a lieu également dans l'espace social. Averroès rompt en effet avec une tradition islamo-andalouse d'éloge de la solitude philosophique qui en son temps fut représentée par Ibn Bajjah, c'est-à-dire Avempas, ou Ibn Tufayl. Leur idée est la suivante. Le philosophe, certes, vit dans la société, certes. Il y assume même un certain nombre de rôles, mais la société étant ce qu'elle est, c'est-à-dire dépravée, cette condition d'animal social est une condition subie. Et ce n'est pas donc en tant que le philosophe conduit son existence aux côtés des autres. Certes, l'homme, donc, est naturellement social, cela, il ne le nie pas, mais dans la mesure où la société réelle est éloignée de la cité idéale, bien le philosophe, dans l'intérêt d'ailleurs de sa propre perfection, doit sacrifier cette condition naturelle. Alors avec cela, Averroès rompt résolument. Ce qu'il dit, au fond, pourrait se résumer ainsi. Il faut des philosophes, il faut qu'existent des philosophes, et c'est une nécessité de nature, sans quoi existerait une puissance, la puissance de pensée, qui ne passerait pas à l'acte, ce qui est impossible, parce qu'alors la nature aurait fait quelque chose en vain, donc il faut des philosophes. Et pour cela est requise, outre la communauté des savants, une certaine organisation sociale. Le philosophe a besoin de cette organisation sociale, il a besoin de cette harmonie, à laquelle, à la mesure de leurs moyens, les individus concourent, en suivant la loi qui correspond à leur statut. Donc, à sa place, chacun comme il peut, chaque membre de la communauté contribue à l'avènement nécessaire du point de vue de la nature, du philosophe, lequel, de son côté, ce serait intéressant dans un autre cadre, de son côté, a en public le devoir de défendre les normes de la majorité du corps social que le discours révélé expose. En gros, le philosophe, pour qui travaillent les autres, prie. J'ajoute que dans cette circulation d'entraide, dans cet accord qui culmine dans la figure du philosophe, l'accomplissement philosophique n'a rien, pour parler trivialement, d'égoïste. Puisque, du point de vue d'Averroès, dans l'achèvement du philosophe, il n'est plus question d'individualité. Je veux dire que le philosophe ne l'est pas en tant qu'individu. Dans ce couronnement, donc, du point de vue d'Averroès, c'est l'humanité tout entière qui trouve son accomplissement. Je me permets ici une petite référence par contraste dont je n'ignore pas qu'elle est tout à fait anachronique. Dans un petit texte que vous connaissez sans doute qui s'appelle « Les intellectuels en question », Blanchot cite Péguy. Et il fustige une éloquence, je cite, « sublime mais détestable ». À propos de Dreyfus, Péguy écrivait ceci, que je vous cite. « Investi héros malgré lui, investi victime malgré lui, investi martyr malgré lui, il fut indigne de cette triple investiture, historiquement, réellement indigne, insuffisant, au-dessous, incapable, indigne de ce triple sacre, de cette triple investiture. » Et Blanchot note ceci, après cette citation, « phrase, à bien lire, absurde, qui montre à quelle altération, le terme est en italique, l'intellectuel devenu s'expose, l'intellectuel devenu le messager de l'absolu, le substitut du prêtre, l'homme supérieur marqué par le sacré. » Eh bien, le philosophe dont parle Averroès ne sera jamais cet intellectuel. Et il n'est pas menacé par cette altération. À dire vrai, il n'est ni cet intellectuel universel qui se voudrait dans son individualité, et c'est bien le problème, ou en tout cas la difficulté, qui se voudrait la conscience de tous, ni l'intellectuel spécifique dont Foucault, en 1976, disait qu'il représentait une nouvelle figure du penseur au combat désormais nécessairement local. Le philosophe d'Averroès, pourrait-on dire, en tant que philosophe, au moment philosophique de sa vie de philosophe, est l'absolu. Et j'ai rapidement essayé de vous montrer en quel sens on peut tout de même parler, dans cet acte d'intelligence où il s'identifie à l'absolu, où on peut tout de même dire qu'il est question de communauté ou de collectivité. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas cela que les latins ont lu lorsqu'ils tenaient le grand commentaire sur le traité de l'âme d'Averroès. Et ce n'est pas là non plus tout ce qu'Averroès nous laisse de fécond, de moderne peut-être, sur la question délicate, très ouverte, de l'intelligence collective. J'aimerais le montrer, enfin, mais rapidement sur un ou deux points. Premièrement, en quelques phrases, il faudrait insister, ce sera là un peu plus technique, sur le fait que l'intellect matériel unique, Averroès le compare au diaphane. Au diaphane, c'est-à-dire, en bon aristotélisme, à cette qualité propre à certains corps transparents, l'air, l'eau, qui constitue le nécessaire milieu de la vision. Il y a du diaphane autour de nous là, et c'est ce qui nous permet de voir. Pour voir quelque chose chez Aristote, il faut d'abord un objet coloré, cette bouteille par exemple, il faut recevoir la forme de cet objet coloré, mais cela n'est possible que s'il y a de la lumière, que si de la lumière est présente, et que si, en même temps qu'elle éclaire l'objet, la présence de cette lumière actualise un intermédiaire, que précisément Aristote appelle le diaphane, et qui sert de médium entre l'objet et l'œil qui perçoit. Le diaphane, peut-on dire donc, c'est cette condition en elle-même invisible d'apparition du visible. Et c'est à cela qu'Averroès compare l'intellect matériel. L'intellect agent, dit-il, c'est comme la lumière. L'image, c'est comme la couleur. L'intellect matériel, c'est comme le diaphane. Du coup, lorsque Thomas d'Aquin, par exemple, attaque l'unicité de l'intellect averroïste en prenant l'exemple d'un œil unique pour l'humanité, il a beau jeu de dénoncer la position d'Averroès en moquant l'idée d'une vision unique pour tous les hommes, c'est-à-dire aussi, si l'on suit l'analogie, l'idée d'une pensée unique pour tous les hommes. Mais il fait erreur. Il fait erreur parce que l'intellect unique, ça n'est pas, chez Averroès, un œil unique. Ça n'est pas un super-œil panoptique. Et on voit assez quel fantasme noir, quel projet pourrait nourrir une telle lecture. Ça n'est pas un agent, l'intellect matériel, ça n'est pas un agent conscient et connaissant unique. Ça n'est pas ce qui ou celui qui pense, l'intellect unique d'Averroès. Je fais à nouveau une remarque, un petit peu décalée, voire supra-décalé et anachronique à nouveau. Prenons la très célèbre et très critiquée thèse ou hypothèse de Durkheim sur la conscience collective. Que dit Durkheim, par exemple, dans son article de 1898 sur les représentations individuelles et les représentations collectives? Alors, c'est bien connu, je vais vite. Premièrement, Durkheim dit qu'il existe des représentations, je cite, qui certes entretiennent avec leur substrat, c'est son terme, et ces substrats, ce sont les consciences individuelles, qui certes entretiennent avec leur substrat d'intimes rapports. Durkheim dit évidemment, la vie psychique n'est pas, je le cite, une sorte d'absolu qui ne viendrait de nulle part. Donc ça vient des consciences individuelles. Mais que, ajoute Durkheim, Nonobstant ce lien, nonobstant ce rattachement, cette intimité, ces représentations ont tout de même une certaine forme d'indépendance, première chose. Deuxièmement, Durkheim explique que le signe de cette indépendance relative se mesure à l'extériorité, c'est son terme là encore, à l'extériorité de ces représentations collectives par rapport aux individus. La conscience collective est une pensée du dehors, c'est Durkheim qui le dit, c'est une pensée du dehors qui déborde l'individualité de chaque individu. Et pourquoi cela? Pourquoi ce débordement? Parce que ça n'est jamais en totalité, la conscience collective, l'œuvre d'un individu. La conscience collective, c'est toujours une synthèse, c'est l'œuvre du concours, l'expression de Durkheim, de tous les individus, de l'ensemble, elle est par l'ensemble, dit Durkheim, et pour cette raison, elle ne se trouve complètement que dans l'ensemble. Alors, écrit Durkheim, ceci, sans doute, chacun, vous, moi, chacun en contient quelque chose, mais elle n'est entière chez aucun. Pour savoir ce qu'elle est vraiment, c'est l'agrégat dans sa totalité qu'il faut prendre en considération. Et il poursuit, c'est la phrase qui m'importe, c'est lui, l'agrégat, qui pense, qui sent, qui veut, quoi qu'il ne puisse vouloir sentir ou agir que par l'intermédiaire de conscience particulière. Bien là aussi, comme tout à l'heure avec ma référence à Blanchot, voilà exactement, me semble-t-il, la conclusion qu'on ne doit pas tirer des thèses d'Averroès qui, lui, n'hypostasie pas une sorte de super-sujet, de super-sujet agent, réduisant à l'unité toutes les contributions particulières. Certes, chez Averroès, l'unicité de l'intellect matériel n'a pas, là non plus, l'individu, chaque individu pour substrat. Certes, il revêt cet intellect, par rapport à chacun d'eux, une forme d'extériorité. Le latin dit bien que cet intellect est extrinsecus. Certes encore, on va le voir dans le point qui suit, il est actué par l'ensemble des hommes, par l'ensemble. Cela étant, l'unicité de cet intellect n'est pas, je le redis, l'unicité d'un sujet qui pense ou qui veut au lieu et place des hommes. C'est l'unicité d'un diaphane, c'est l'unicité d'un milieu qui n'est pas, en latin, hoc aliquid, c'est-à-dire une réalité désignée, un ceci que voici. C'est l'unicité d'un diaphane qui est collectif, partagé, partageable. En quoi Averroès vient chercher, certes, la condition de possibilité d'une universalité, mais d'une universalité qui, si je puis dire, ne confisque pas le savoir. D'une universalité qui, au contraire, doit permettre de concevoir l'appropriation de la pensée, son individuation, sa multiplication, son intermittence, sa circulation, et je devrais même dire mieux, d'une universalité qui n'existe qu'en tant qu'elle permet effectivement cette appropriation, cette multiplication, cette circulation. En quoi je vois, moi, si je voulais m'amuser à quelques connexions, une matrice qu'on pourrait rapprocher sans rogner cependant des différences, de ce que Simondon, par exemple, dit de l'articulation du pré-individuel, de l'individuel et du trans-individuel. Chez Simondon, en effet, c'est seulement en fonction d'un être pré-individuel, compris comme, je le cite, « plus qu'un », et voilà une nuance qui me plairait d'ajouter à l'unicité de l'intellect averroïste, c'est-à-dire d'un être compris comme plus qu'un, d'un être compris comme système, dit Simondon, chargé de potentiel, bien c'est seulement à partir de cet être-là qu'il devient possible de penser la formation d'être individué. L'idée étant que les êtres individués n'épuisent pas, dans leur individualité, la puissance de la réalité pré-individuelle, et que cela exige un nouveau processus d'individuation qui ne peut, cette fois, advenir à l'intérieur de l'homme, mais seulement entre une multiplicité d'individus. Nouvelle individuation, donc, qui donne lieu au collectif lorsque le pré-individuel se convertit en trans-individuel qui accroît, qui affine la singularité. Alors, de la diaphanéité de l'intellect matériel à la multitude, en passant par l'appropriation, via les images de la pensée, il me semble qu'on a là un modèle très opérant pour croiser ce que dit Simondon. Et pas seulement cela, du reste, mais aussi ce que l'on trouve, je poursuis dans mon jeu anachronique, ce que l'on trouve dans le champ explicitement politique, cette fois, dans des lectures très contemporaines de Marx, par exemple. Et je pense, cette fois, à la notion très fameuse et très travaillée de « general intellect », en anglais dans le texte, qu'utilise Marx à plusieurs reprises, dans la première version du Capital et notamment dans les critiques, sa critique des fondements de l'économie politique, la Grundrisse. J'en dis deux mots très superficiels en m'excusant devant vous qui, pour certains en tout cas, connaissent cela beaucoup mieux que moi. Marx explique qu'à l'époque du machinisme, c'est dans son fragment sur les machines que vous trouvez cette expression de general intellect. Marx explique qu'à l'époque du machinisme et de la grande industrie, qui est aussi celle de la technologie, c'est la science elle-même, le general intellect, la science elle-même, par le biais de la technologie, qui dirige la production. Au moment même où le travailleur se voit dépossédé de son savoir technique et n'est plus réduit qu'à une force matérielle, de sorte que ce savoir, le general intellect, lui fait face comme un dominateur étranger. L'une des critiques récurrentes que l'on adresse aujourd'hui, depuis plusieurs décennies en fait, à cette vision, c'est de s'en tenir à l'idée que la connexion entre savoir et production, dont parle Marx, s'épuiserait dans le système des machines, dans cet intellect en surplomb, extérieur, transcendant, en négligeant et de négliger du coup, je cite l'un de ses critiques récents, en négligeant, je cite, le côté sous lequel le même general intellect se présente au contraire comme travail vivant. C'est-à-dire ce qu'on lui reproche à ce fragment, ou en tout cas à des lectures passées de ce fragment, c'est d'oublier que le cerveau social s'incarne dans ce qu'on appelle le travail vivant. Ce qui veut dire quoi, très simplement? Cela veut dire que l'on ne doit plus estimer, qu'on ne devrait plus estimer, que l'intellect général coïncide avec le capital fixe, c'est-à-dire avec le savoir cristallisé dans les machines, mais qu'il fait un, par exemple, avec la coopération linguistique d'une multitude de sujets vivants. Et pour concevoir ce changement de plan, comme certains d'ailleurs l'ont fait assez récemment, là encore, la lecture du grand commentaire n'est peut-être pas tout à fait inutile. Mais je passe à un deuxième point. Le deuxième point, c'est le suivant. C'est de dire que cette perfection de l'homme qui est l'intellect matériel, perfection au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire d'acte, de forme, cette perfection apparaît chez Averroès, dont j'ai dit que c'était l'équivalent du diaphane, apparaît chez Averroès en un sens comme la perfection non pas de l'individu, mais de l'humanité, c'est-à-dire de l'espèce humaine. Et c'est un glissement très important. Ce n'est pas la même chose de s'intéresser à l'intellect comme la faculté de l'individu humain, ou même de dire, en guise de définition, que l'homme est un animal rationnel, et de soutenir, comme Averroès le laisse entendre, que l'intellect, c'est effectivement, et non pas seulement par définition, c'est effectivement la puissance de l'humanité. Que c'est dans son rapport à l'espèce qu'on peut, voire qu'on doit, fondamentalement le concevoir. Que c'est dans son rapport à l'espèce, en tant qu'il est rapporté à l'espèce, que bel et bien il fonctionne, qu'il opère, qu'il existe. Or, c'est ce qu'on peut lire dans le grand commentaire. L'intellect, à plusieurs reprises, Averroès dit qu'il peut être considéré simpliciter, c'est-à-dire absolument. C'est-à-dire relativement à l'espèce, explique Averroès, et non pas relativement à tel ou tel individu déterminé, Socrate par exemple, ou Théodète, ou Platon, ou moi, ou un autre. Et c'est ainsi, par exemple, continue Averroès, que l'on expliquera qu'il est toujours en acte, ce qui, ne l'oublions pas, est une nécessité de nature. Il est toujours en acte puisqu'il y a toujours des individus dans l'espèce qui pensent à la fois simultanément et puis alternativement et puis successivement. Donc, ce rapport à l'espèce chez Averroès est une sorte de réquisite. L'intellect est unique, il est éternel et il doit sans arrêt être plein. Il doit sans arrêt être actué. Mais s'il doit être sans arrêt actué, nécessairement son corrélat, c'est l'espèce humaine. C'est-à-dire un ensemble d'individus qui, par leur roulement, par les diverses interventions dont ils sont capables, ne font jamais défaut et pourront prémunir l'intellect de tout court-circuit. Alors certains latins se sont emparés de cette idée avec des variations et des conséquences absolument remarquables sur lesquelles je voudrais terminer. Tout d'abord, pour répondre à ceux qui disent qu'à un moteur ne doit pas correspondre plusieurs mobiles, ce qui serait inutile, qu'à un agent ne convient pas plusieurs instruments, et que donc à l'intellect unique ne doit pas convenir plusieurs corps, c'est l'attaque, hein, l'une des arguments qu'on fait valoir contre Averroès. Pourquoi y aurait-il un intellect et plusieurs corps, alors qu'on ne cesse de dire que là où il y a un opérateur, là où il y a un instrument, il y a un utilisateur? Eh bien, certains averroïstes, pour répondre à cela, soutiennent que cette règle, un opérateur, un instrument, un moteur, un mobile, ne vaut que si l'on rapporte une perfection à son perfectible premier. À son perfectible premier. Or, disent les averroïstes, certains en tout cas, quel est le perfectible premier de l'intellect humain ? C'est l'espèce. C'est l'espèce et non pas les individus qui la composent. C'est l'espèce, l'espèce une, elle aussi. On a bien autrement dit un intellect, une espèce. L'unité de l'espèce est vue comme, est posée comme le nécessaire pendant de l'unicité de l'intellect. Cette thèse est notable. Elle est notable doublement. D'abord parce que, me semble-t-il, ceux qui soutiennent cela, au nom du commentateur, au nom d'Averroès, n'entendent pas l'espèce comme Averroès. Celui-ci, lorsqu'il dit que l'intellect se rapporte à l'espèce et que cela peut expliquer sa permanente actualité, celui-ci veut dire que l'intellect se rapporte à n'importe quel individu de l'espèce, pourvu qu'il y ait là quelque chose à penser. L'intellect, dit Averroès, est à l'œuvre toutes les fois que, parmi les hommes, des corps imaginent. Et il est certain que si l'on ne se focalise pas sur un cas précis, par exemple celui de Socrate, eh bien, mais qu'on l'envisage dans son rapport à quiconque, à un individu quelconque, il est certain que l'intellect ne cessera d'agir. Parce que toujours, si c'est pas moi, c'est Denis, si c'est pas Denis, c'est un autre, il y aura toujours un individu quelconque pour penser sur la Terre. Pour les averroïstes, en revanche, l'espèce désigne l'ensemble des hommes et non pas un individu quelconque. L'ensemble des hommes comme tel, tous les hommes pris conjointement et non pas isolément, l'individu vague. Or, et deuxièmement, cela signifie qu'on a ici, me semble-t-il encore, un paradigme noétique, on pourrait dire un paradigme cosmologico-noétique, parce qu'il est question du traité du ciel d'Aristote là-dessous, un paradigme noétique inédit pour penser la constitution de l'espèce humaine comme telle. Et il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de simplement dire l'homme est un animal rationnel, ou d'où une raison. Ce qu'on a ici, c'est l'espèce une, c'est-à-dire concrètement, parce que ces gens-là ne sont pas des platoniciens, l'unité des multiples individus comme corréla d'une puissance intellective unique. Du coup, lorsque Dante, par exemple, au début du XIVe siècle, dans ce texte magnifique qui est la monarchie, lorsque Dante parle d'une société universelle, lorsqu'il parle de l'ensemble du genre humain, tout ordonné à l'intellection, tout ordonné à la pensée, tout ordonné à l'actuation de l'intellect qui, pour Dante, constitue la fin commune du genre humain. Et on pourrait déjà noter qu'on n'est plus du tout chez Aristote qui s'intéresse, lui, à l'ergone de l'homme, là où Dante parle de l'ergone de l'humanité. Lorsque Dante, donc, parle de l'universitas, c'est le terme latin, du genre humain ordonné tout uniment à la pensée, il faut peut-être cesser de voir dans cette communauté, comme on le dit généralement, une laïcisation de l'idéal d'une chrétienté universelle. Une laïcisation du corpus mysticum, du corps mystique de l'Église, c'est ce que par exemple disait très brillamment Gilson, et que très brillamment après lui a développé Kantorowicz. Il faut cesser de voir à l'œuvre ce modèle-là, et lui assigner à cette idée de l'universitas du genre humain, un autre modèle, un autre principe strictement philosophique, en l'occurrence inspiré d'Averroès, lecteur de la cosmologie d'Aristote. Ça, c'est un premier aspect. J'en donne un second pour finir, qu'enveloppe positivement la thèse d'Averroès sur l'intellect rapporté à l'espèce, qui peut expliquer son rejet, je le redis, et qui garde une force théorique. Ce rapport de l'intellect à l'espèce, c'est-à-dire à tous les hommes, est pour fonctionner à n'importe qui parmi eux, pourvu qu'il imagine, dispose de l'intellect à penser. Ce rapport entraîne cette conséquence que l'intellect, si l'on peut dire, est essentiellement lié à l'espèce et accidentellement lié aux individus, lesquels du coup, vous, moi, n'ont d'autre justification que de fournir du pensable et sont sous cet angle totalement interchangeables. Voilà une idée, une lecture de l'intelligence collective que les latins adversaires ne pouvaient admettre et que l'Église du reste a condamné. En 1277, en effet, une très grande année de la censure, où 219 thèses y passent, l'évêque de Paris exclut cette proposition, je vous la lis, « L'intellect est numériquement un pour tous, et bien qu'il soit séparé de ce corps, Socrate par exemple, il n'est cependant pas séparé de tout corps. » Alors ce qu'on condamne ici, outre la thèse de l'unicité, c'est aussi l'idée que l'intellect unique collecte tout ce qui est à penser chez les individus, quels qu'ils soient, sans que soit accordé au fond la moindre importance, c'est un peu ma lecture, à ce qu'ils sont. Pour un averroïste, de fait, il faut du corps. Il faut du corps pour que l'intellect puisse penser et exister. Mais que ce soit le corps de celui-ci ou de celui-là est totalement indifférent. Et c'est aussi ce que veut dire, ce qu'implique le fait que l'intellect dépende de l'espèce humaine. L'intellect dépend de l'espèce humaine conçue comme une succession ininterrompue de multiples supports d'images, et non en particulier de tel ou tel. L'espèce humaine, pour dire les choses de manière un peu tranchée, n'est qu'une population d'images qui se renouvelle. Et l'individu en elle est justifié comme corps, mais nullement, par exemple, comme personne. Ce qui revêt une nécessité, ça n'est que l'espèce, conçue comme une multiplicité de corps substituables. Il y aurait donc deux corps de l'humanité, comme on a voulu, comme on veut qu'il y ait deux corps du roi, par exemple, le corps, si je puis dire, avec un grand C, l'espèce des corps imaginants, et le corps temporaire de l'individu qui va, qui vient, qui naît, qui périt, et qui n'est que le support fragile d'images inscrites dans la durée très brève de sa vie. Cet aspect me paraît lui aussi capital, qui finalement évacue le modèle de l'homme providentiel, du saint, du prophète, du pôle, et rend définitivement caduque, pour le coup, le tableau à la gloire de Thomas d'Aquin. Ce qui compte dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle à l'époque en latin « multitudo », c'est-à-dire la multitude. C'est très net, par exemple, chez ce grand averroïste du XIVe siècle, strict contemporain de Dante que fut Jean de Jandun, professeur de philosophie à Paris. C'est très net lorsqu'on mesure combien Jean est intrigué par une proposition d'Averroès qu'il lit dans le grand commentaire, une proposition sur la philosophie qui dit ceci, je la traduis directement en français, « La philosophie est parfaite dans la majeure partie du sujet. » Voilà ce qui est écrit. Que voulait dire Averroès ? Sans doute, pour commencer, ne parlait-il pas de sujet, dans cette phrase, mais de lieu. En arabe, les deux termes étant très proches, le traducteur a fait une erreur. Autrement dit, Averroès veut dire « La philosophie est parfaite dans la majeure partie du lieu », c'est-à-dire, globalement, il y a de la philosophie partout. Il y a de la philosophie sur la terre. Mais, deuxièmement, Averroès ne parle sans doute pas de la philosophie, mais des philosophes, parce que, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pense l'actualité de l'intellect matériel, l'actualité permanente en rapport à l'espèce, il la pense aussi en rapport à cet individu parfait qu'est le philosophe et qui, nécessairement, est advenu, advient et adviendra. Cela, justement, les latins ne l'ont pas lu, cette idée du philosophe. Jean de Jandun, par exemple, n'a pas lu qu'il s'agissait du philosophe, et il n'a pas lu, il ne pouvait pas soupçonner qu'il ne s'agissait pas de sujet, mais de lieu. Du coup, lui, se trouve face à cette phrase à laquelle il essaie de donner sens, la philosophie est parfaite dans la majeure partie du sujet. Et que dit-il ? Il dit ceci qui est tout à fait révolutionnaire, lexicalement et conceptuellement. Le sujet de la philosophie, le sujet substrat de la philosophie, qu'est-ce ? Jean répond, ce sont les hommes. Les hommes sont le sujet de la philosophie. La formulation est absolument inédite. Premier point. Et deuxième point, si la philosophie est parfaite dans la majeure partie du sujet, c'est-à-dire donc dans la majeure partie des hommes, cela veut-il dire que la majeure partie des hommes est philosophe ? Évidemment non, répond Jean, pour toute une série de raisons qui seraient intéressantes de creuser. Évidemment non. Pourquoi ? Parce que c'est facile de voir que la majorité des hommes n'est pas philosophiquement accomplie. Mais Jean dit ceci. Jean dit, s'il est vrai que rares sont ceux qui sont parfaitement philosophes, peut-être y en a-t-il un tous les 500 ans, rares sont ceux qui sont absolument des brutes. Rares sont ceux qui absolument ne savent rien. La donne, c'est plutôt que la majorité des hommes sait un peu quelque chose. Donc, ce que veut dire Jean, c'est que majoritairement, nous savons tous un peu quelque chose. Toi la logique, toi les pierres, toi la grammaire, toi un peu de métaphysique, etc. Et le savoir, dit Jean, qui cherche toujours à rendre raison de cette idée que la philosophie est parfaite, et le savoir, justement, dit Jean, est parfait, non pas en latin divisim, c'est-à-dire divisé en chacun de nous, mais collectivé, collectivement, si l'on fait la somme de toutes les compétences particulières. Ça m'a fait rire de trouver ça dans un livre que je trouve assez mauvais, que de Pierre Lévy, qui s'appelle « L'intelligence collective ». Mais à la définition, qu'est-ce que l'intelligence collective ? Il dit ceci, « C'est une intelligence partout distribuée, Et il continue à expliquer un peu plus loin, et il dit « Une intelligence partout distribuée, tel est notre axiome de départ, personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose, tout le savoir est dans l'humanité. » C'est ce genre de genre. Alors, Jean dit ceci, que si l'on intègre donc tous nos micro-savoirs, on trouve la philosophie en parfait état. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas exercée par le saint, par l'homme providentiel, elle n'est pas exercée par tel individu dans son coin, mais elle est parfaite, elle existe comme une addition de tous les savoirs exercés aux quatre coins du monde. C'est une sorte de réunion du savoir épars. Ne disons pas que c'est une pensée unique, c'est plutôt, du point de vue de Jean, un savoir unifié. Cela, je répète, ça n'est pas Averroès. Ça n'est pas Averroès qui, d'une part, n'aurait jamais pu dire en toute rigueur que les hommes sont le sujet de la philosophie, et qui d'ailleurs considère, lui, encore une fois, comme allant de soi l'idée que le philosophe existe et que ce qu'il faut faire, c'est envisager sa catalyse sociale. Ça n'est pas Averroès, et cela donne un tout autre sens à l'idée d'une intelligence collective, solidaire de la thèse dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait de la multitude le corrélat de l'intellect unique. Du point de vue du censeur, que fut l'évêque de Paris, ou d'autres, on peut bien comprendre que cette multitude et l'anonymat personnel qu'elle impliquait aient revêtu quelques aspects effrayants. N'empêche, on assiste là à la production d'une thèse sur l'immanence à l'humanité de la totalité du savoir et de sa propre fin. Là où Averroès assure que la société joue un rôle dans l'accession du genre humain à sa perfection ultime, dans la mesure où elle s'organise pour permettre l'existence en son sommet du philosophe, Jean de Jandun, par exemple, et d'autres, proposent, mais au fond sans trop réaliser la portée du geste, l'idée que la société actualise elle-même, grâce à sa multitude, en tant que multitude, toute la connaissance. Ce qui veut dire que l'exercice collectif de l'activité humaine, théorique et pratique, n'est pas qu'une condition de la perfection de l'espèce qui s'incarne en quelque sorte en certains individus, mais la somme de ces activités théoriques et pratiques est vue comme l'essence même de cette perfection. La philosophie n'est donc pas l'acte de l'espèce, la pensée d'un homme, c'est proprement l'acte de l'espèce. Je note que ce geste théorique ne fut pas absolument isolé et on peut au moins lui adjoindre, plusieurs l'ont fait, pas pour dire strictement la même chose, on peut au moins lui adjoindre à la même période celui de Dante, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Dante, qui est à la fois très proche de ce que dit Jean, et qui ajoute un élément qui change tout. Je résume vraiment à très gros traits le raisonnement de Dante dans le livre 1 de la Monarchie. Il pose cette question. Quelle est la puissance propre de l'humanité comme telle? La puissance propre de l'humanité comme telle, c'est l'intellect possible. Évidemment, référence directe à ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est l'intellect possible, c'est-à-dire la puissance de penser. C'est ça qui est la propriété de l'humanité comme humanité. Que doit faire l'humanité? Quel est son but? Quel est son destin? Quel est son bonheur? Elle doit actuer sans cesse cet intellect. Sans quoi, encore une fois, existerait une puissance séparée de son acte, ce qui ne peut se concevoir dans la nature. Mais comment peut-on réaliser ce but? Comment actualiser en permanence cette puissance de penser qui fait l'humanité? Un seul homme ne le peut pas. Une seule famille ne le peut pas, une seule cité ne le peut pas, un seul royaume ne le peut pas. Il faut, pour l'actuer, l'ensemble des hommes, c'est-à-dire ce que Dante appelle la multitude. Il faut la multitude pour que l'intellect soit véritablement actué. Sauf que, ajoute Dante, cette multitude n'est véritablement efficace que dans la paix, c'est-à-dire dans un cadre politique qui puisse la garantir. Autrement dit, et c'est la dimension qu'on ne trouve pas chez Jean de Jandun qui change tout, il ne s'agit pas seulement, comme chez Jean, de penser la philosophie comme une totalisation, au fond extrinsèque, de savoir disséminé, externe aux individus pensants, il s'agit d'établir les conditions politiques d'une intervention commune des hommes qui pensent, c'est-à-dire les conditions politiques d'une totalité pensante. Et ça, c'est totalement neuf. Il est totalement neuf de dire non seulement que le commun pense, mais qu'il doit penser en commun, et qu'il faut, de cette communauté-là, établir la base politique. Ce sont un peu les deux aspects relevés plus haut qu'on retrouve, l'immanence dans la transindividualité et le champ politique. Alors, dans l'un de ces articles, Jean-Luc Marion, à propos de la notion de personne, faisait référence, c'était il y a 5-6 ans, faisait référence à la noétique d'Averroès comme à une branche de ce qu'il appelle un spinozisme de la subjectivité. Je cite encore, « faisant l'hypothèse que toute pensée individuelle ne passe finalement à l'acte que par un intellect agent unique sur lequel il convient seulement de se brancher. » Cette phrase met côte à côte Averroès et explicitement le web, c'est-à-dire, je cite encore, « l'unicité de l'intellect agent selon les averroïstes médiévaux et le circuit unifié des données et des décisions prises en temps réel par les internautes. » L'allusion est un peu rapide et contestable, vous l'aurez noté, parce qu'elle parle de l'intellect agent et pas de l'intellect matériel, encore que cet aspect ne soit pas à négliger. Elle est un peu rapide, cette allusion, mais elle est suggestive, au moins sur un point important, sur l'idée qui semble finalement propre à l'avéroïsme quand on regarde la récurrence des objections qui sont faites, sur l'idée de cette totalité pensante, accomplie, qui, encore une fois, surplombe toujours, menace toujours de surplomber de l'extérieur les individus. Ce problème de l'actualité permanente est réel. Et à cet égard, je ne partage pas la lecture que donne Giorgio Agamben des passages de la monarchie que je vous ai donné dans un article qui s'appelle « L'œuvre propre de l'homme » que vous trouvez dans un recueil qui vient d'être traduit en français « La puissance de la pensée ». Je ne crois pas que Agamben ait raison de dire que Dante, qui en cela serait avéroïste, avance une politique qui corresponde, je cite, « au désœuvrement de l'homme ». Une politique, c'est assez beau comme formule, une politique conforme à une pensée humaine qui serait exposée de manière constitutive à son propre défaut, à son désœuvrement. Pourquoi Agamben dit ça? Parce qu'évidemment, il se focalise sur l'idée que le propre de l'humanité, c'est l'intellect possible. Et qu'est-ce que l'intellect possible? À la différence de l'intellect angélique ou divin, c'est un intellect en puissance de pensée. Et que donc, précisément, ce qui fait l'humanité, c'est la menace permanente de son désœuvrement. La possibilité de son échec, de son vide, de son trou. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que c'est précisément oublier le second plan dont je n'ai cessé de parler, à savoir que cet intellect possible n'est jamais vide. Et qu'au fond, le problème des avéroïstes, c'est exactement l'inverse. C'est le problème de l'actualité permanente de cet intellect. Et à la limite, ce serait plutôt un problème économique de gestion des individus qui doit sans cesse actualiser cette actualité. Autrement dit, le problème, c'est au-dessus de nous, la suractualité. C'est ça, la menace. Alors, c'est bien connu, je vais finir avec ça, dans l'un de ses essais, vous avez lu, peut-être plus que moi, l'inquiétante étrangeté, Freud montre combien, pas seulement là d'ailleurs, montre combien la puissance extrinsèque de la pensée peut prendre des aspects angoissants. Alors, si l'on veut s'épargner une angoisse individuelle et mondiale, sans doute faut-il essayer, et pourquoi pas en prenant comme pôle négatif la lecture que Thomas d'Aquin donne de l'intellect matériel d'Averroès, sans doute faut-il essayer de concevoir, continuer de mettre en place, si l'on est optimiste, une sphère immanente et politique, c'est-à-dire d'une formule, une sphère publique de l'intellect public. J'ai fini et je vous remercie.
Eh bien, notre nom à tous, je remercie vivement Jean-Baptiste pour son exposé. Je m'empresse de dire, d'ailleurs, tu m'en donnes l'occasion, c'est le temps de respirer un peu, que en cette circonstance, ça avait été déjà le cas dans d'autres circonstances, dans nos conférences, on a pu se dire que la densité du propos est très grande, que même si on peut en débattre, on va en débattre, si vous voulez bien, on ne peut pas la saisir immédiatement dans sa richesse et dans sa complexité. Alors, on essaie, dans ce groupe de recherche théorique, de donner des instruments pour qu'il soit possible d'y revenir. J'en cite deux. D'une part, les conférences sont, après quelques jours, disponibles en version audio sur Internet, grâce à notre site du groupe de recherche théorique. Sur ce point, vous pouvez avoir toutes les informations, de même que sur le groupe d'ailleurs, en vous en connaître à la fin de cette séance, si vous n'êtes pas familier de nos travaux. en particulier auprès de Johan Holland, qui est notre coordinateur. Vous pouvez recevoir les informations, etc., savoir où est ce site et comment on peut réentendre les propositions de Jean-Baptiste, de même que celles qui l'ont précédé, qui le suivront. Et puis d'autre part, que ces 8 conférences feront la matière d'un livre qui paraîtra au mois de janvier ou février 2008, et dans lequel on pourra, enfin, les conférenciers ont donné leur accord, dans lequel on pourra les lire ou les relire sous forme rédigée. Livre qui sera une espèce de, à la fois de bilan et d'ouverture sur quelque chose qui suivra, je l'espère. Voilà, c'était le temps d'une transition pour souffler et pour vous laisser, si vous voulez, fourbir vos questions, que je vous invite, si vous voulez, formuler vos questions que nous attendons.
Là, c'est le moment difficile pour celui qui vient de parler, donc en principe, c'est moi qui pose la première question dans ce groupe. Là, je ne peux pas m'auto-affecter.
C'est vrai, Jean-Baptiste, qui a eu la gentillesse de venir à toutes les conférences précédentes, a toujours posé la première question. Il s'en était fait une règle, mais comme il n'y a pas de règle sans cette dérogation, voilà. Alors, quel est celui qui veut bien le remplacer pour ce soir, dans cette fonction, je veux dire?
J'assumerai avec dignité le silence. Enfin, pas plus de 2 minutes. Oui.
Alors, je vais faire, puisque c'est aussi mon rôle pour... Mais par une question que je n'aurais pas voulu poser maintenant, parce qu'elle est beaucoup trop massive, elle est beaucoup trop épaisse par rapport à la finesse et à l'acuité de ce que tu dis, et de ce que tu soulèves. Aussi bien dans la façon d'entrer dans le cœur du problème que tu poses dans cette pensée, donc évidemment nous sommes nombreux à ne connaître que de très loin ici, que dans le carrousel d'écho contemporain que tu as fait tourner. C'est pas tout à fait dans ta manière habituelle, mais c'est un plaisir que tu as fait tourner comme ça, avec beaucoup de subtilité, de finesse. J'ai noté les noms au fur et à mesure qu'ils arrivaient. c'est une belle histoire, voilà. Donc cette question est trop massive, elle est lourde, à tous les sens du mot. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est pour vous laisser le temps de formuler les vôtres, qui seront meilleurs. Comment rends-tu compte dans ton histoire personnelle de chercheur, dans ton travail personnel, du fait que tu ailles chercher, ces résonances, qui, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas, enfin, ce n'est pas toujours le cas de ce que j'ai lu de toi, mais aujourd'hui, c'est extraordinairement frappant, ces résonances que tu as provoquées, que tu as soulevées, suscitées, avec beaucoup d'énergie, de vivacité à la fois, vers les problèmes et la pensée d'aujourd'hui. Tu n'as pas cessé de mettre en écho, plus qu'en écho, enfin, tu montrais de façon très, très directe et extraordinairement stimulante, comment le problème que tu poses dans cette articulation historique là très située à un moment donné comme ça, comment ce problème que tu poses vient éclairer au moins, peut-être même plus que ça, des débats non seulement philosophiques mais aussi même, tu l'as dit clairement, politiques, enfin historiques qui sont les nôtres, avec des propositions très très, très marquées, quoi. Comment rends-tu compte du fait qu'il faille aller les chercher là, c'est-à-dire à la fois dans ce passé reculé et à la fois dans cette articulation arabo-latine, hein, pour le dire d'un mot de béotien. Donc pourquoi quand tu vas creuser là-bas ces choses dont tu as montré aujourd'hui par où elles résonnent en nous aujourd'hui, en toi, en nous tous là aujourd'hui, pourquoi faut-il aller chercher là? Alors, on pourrait imaginer qu'il faut aller chercher partout, hein, qu'on pourrait aussi bien aller chercher sur l'articulation entre je ne sais pas quoi, enfin, entre d'autres philosophes plus récents, plus anciens, sur d'autres aires historiques. Peut-être que c'est... Bon, bien sûr. Mais on n'a pas l'impression, à t'écouter, on a l'impression que là, il se joue quelque chose, il s'est joué avec une grande... sur cette affaire, bien sûr, du, de l'intelligence collective, de la pensée collective et de ce à quoi elle convoque, quoi, de ce qu'elle ouvre comme question et comme ce qu'elle. Bon. Pourquoi c'est là que ça se serait joué? Entre autres, je ne veux pas dire que c'est seulement là, mais comment tu rends compte du fait que tu vas le chercher là? Pourquoi cette affaire d'Averroïsien qui t'occupe depuis des années et des années et des années? C'est un peu autobiographique, non? Enfin...
petit déjà. Non, c'est gros. Je dirais pas que je soutiendrais qu'il faut aller là et pas ailleurs. Ça non. Au contraire, même. Je pense qu'on a le vertige quand on mesure le nombre de champs qui sont disponibles à travailler. Pourquoi là? Enfin, parmi les différentes réponses que je pourrais faire, je t'en donne une. Ça tient en partie à ce que j'ai très mal dit, parce que ce n'était pas exactement mon objet, alors que ça pourrait être l'objet de notre travail. Ça tient en partie au fait que je crois que ce choc de cette époque-là, sur cette question-là, qui pourtant a été, encore une fois, très travaillée, enfin, relativement travaillée, même si ça a été pendant longtemps dans une ligne idéologique particulière, je crois que ce choc n'est pas un choc théorique comme les autres. Qu'il y a des querelles, on en a connu. Des querelles, il y en a beaucoup. Et elles ont différents sens, elles ont des sens forts. Mais ce choc-là, c'est à mon avis un choc d'une toute autre nature qu'on pourrait résumer avec une... que j'aime bien ça, même si c'est une expression banale, qu'on pourrait résumer par l'expression de désaccord de fond. J'aime bien l'idée de désaccord de fond, de mésentente, d'énorme mésentente. Enfin, pas de mésentente, justement. Pas de mésentente. De désaccord de fond. Alors, il y a un désaccord de fond, et c'est un désaccord de fond qui ne s'est pas réglé, parce qu'il était de fond, qui ne s'est pas réglé comme ça. Et pourtant, dans le bruit que ça a fait, on a pu croire, ou la masse des choses qui se sont dites, on, d'une certaine manière, aurait pu recouvrir ce désaccord. Mais précisément pour ça, il est encore à interroger. Désaccord de fond, et en même temps, c'est gênant de dire ça. C'est gênant pour une raison très simple. C'est gênant de dire, ah tiens, il y a un désaccord de fond avec cet arabe qui avait Averroès. C'est gênant. C'est gênant de dire, ah ben les latins, et moi je suis un latin, on n'a rien compris à Averroès, rien n'était compréhensible, et finalement, ce qu'il faut en tirer, c'est au clair, pourquoi ces deux mondes étanches. Donc c'est pas ce que je dis non plus. Mais c'est l'une des singularités de cette période, qui effectivement dépasse le simple cas, simple objet particulier qu'est l'intellect.
Encore une question très bête, vraiment de Béotien. Dans ce désaccord de fond, est-ce que dans les travaux, pas seulement ce que tu fais, mais sur lesquels tu t'appuies, peut-être tu l'as dit, je ne sais pas, mais ça m'a échappé dans le fil de l'exposé, est-ce que la position d'Averroès, dont tu tires toutes les conséquences, y compris dans ces relectures comme ça latines, est-ce que cette position-là, et donc l'origine du désaccord, c'est ce que tu viens de dire, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait qu'il s'agit d'une pensée arabe? Donc est-ce qu'il est redevable de quelque chose qui alimente ce désaccord, de ses sources, je ne sais pas, hein, arabe, ou bien est-ce que c'est une singularité du bonhomme, quoi? C'est une singularité d'Averroès. Les deux, peut-être, je ne sais pas, mais...
Non, c'est pas une singularité. Enfin, oui, il y a des singularités, ça c'est sûr. Mais globalement, non, c'est pas ça. Et c'est pas... Et si on dit arabe, c'est très compliqué. C'est pas musulman, c'est arabe, mais ça veut dire c'est néoplatonicien, ça veut dire c'est syriaque, c'est une histoire très longue. Ça se joue comme ça, mais je vais juste donner un exemple actuel. Il va y avoir un colloque bientôt sur la violence intellectuelle. Et une amie à moi qui participe à ce colloque a préparé un travail très intéressant, très beau, sur l'affrontement Thomas d'Aquin, Siget de Brabant, qui est l'un des disciples, l'un des sectateurs latins d'Averroès. Et sa thèse n'est, par exemple, pas du tout la mienne. Et peut justifier pourquoi moi je m'intéresse, et pourquoi si elle avait raison, je ne m'y intéresserais pas. Sa thèse, du point de vue historien, consiste à dire qu'au fond, il y a une très grande violence presque avec des arguments ad hominem et puis presque une violence parfois physique qu'on sentira à travers les textes. Il y a une très grande violence, mais qu'au fond, cette violence-là est le signe de la bonne santé des pratiques scolastiques, de la bonne santé des pratiques universitaires. Qu'au fond, la vraie violence, elle est dans la censure universitaire. Et que donc, cette violence-là, c'est une violence très harmonieuse du point de vue du système, au fond, qui témoigne de la bonne santé du système. C'est une belle thèse. C'est pas du tout la mienne. C'est pas du tout la mienne. Si c'est ça, c'est intéressant, ça. Mais c'est pas la mienne. C'est une des raisons pour lesquelles je continue.